Academy de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qu'est-ce qu'un homme heureux ? Un homme heureux est celui dont le bonheur est écrit là-haut. Et par conséquent, celui dont le malheur est écrit là-haut est un homme malheureux. Et qui a écrit là-haut le malheur et le bonheur ? Et qu'est-ce qui a fait le grand rouleau où tout est écrit ? Un roman, Jacques le Fataliste ? Non, dit Diderot, puisqu'il néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer à d'autres. Roman, roman métaphysique, roman de voyage, roman de parole et de récit dans le récit. Première diffusion sur RTF Promotion le 12 novembre 1963, avec en tête de distribution Jean-Pierre Cassel et Jean-Roger Caussimon. Et qui est le maître du maître de Jacques et que devient le capitaine de Jacques ?
Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours.
Oh, diable, l'histoire de mes amours ! Ne voilà-t-il pas que j'ai laissé ?
Qu'as-tu laissé ?
Ma bourse de voyage, sous le chevet de mon lit.
Ah ! Oh, diable, l'histoire de tes amours ! Ne voilà-t-il pas que ma montre est restée accrochée à la cheminée ?
Vous entendez Jacques le Fataliste et son maître, de Denis Diderot, découpé par Roger Pilaudin.
Jacques ne se fit pas prier. Aussitôt, il tourne bride et regagne au petit pas le château ? Non, le lieu de leur dernière couchée. Il passe à côté de lui un de ces merciers ambulants qu'on appelle porte-balles et qui lui crie
« Monsieur le chevalier, jarretière, ceinture, cordon de montre, tabatière du dernier goût, vrai jabac, bague, cachet de montre, montre, monsieur, une belle montre ciselée à double boîte, comme neuf. »
J'en cherche bien une, mais ce n'est pas la tienne. Sauf s'il est écrit là-haut que celle que tu me proposes soit celle de mon maître. L'ami, voyons votre montre à boîte d'or. J'ai dans la fantaisie qu'elle pourrait me convenir.
Ma foi, je n'en serais pas surpris. Elle est belle, très belle, de Julien Leroy. Il n'y a qu'un moment qu'elle m'appartient. Je l'ai acquise pour un morceau de pain. J'en ferai bon marché. Et j'aime les petits gains répétés. Mais on est bien malheureux par le temps qui court. De 3 mois d'ici, je n'aurai pas une pareille aubaine. Et vous m'avez l'air d'un galant homme, mais j'aimerais mieux que vous en profitassiez qu'un autre. La voilà.
Oui, c'est elle. Et vous avez raison, elle est belle, très belle, et je sais qu'elle est bonne. L'ami, grand merci.
Comme un grand merci ?
Oui, c'est la montre de mon maître.
Ah, je ne connais point votre maître, cette montre est à moi, je l'ai bien achetée, bien payée. Rendez-la moi.
Et retire-toi ou tu es mort.
Comment ?
Voilà la montre recouvrée, à présent, voyons à notre bourse. Adieu !
Mais, au voleur, à l'assassin, au secours, à moi.
C'était dans la saison des récoltes. Les champs étaient couverts de travailleurs. Tous laissent leurs faucilles et s'attroupent autour de cet homme.
Où est le voleur ? Où est l'assassin ?
Le voilà là-bas.
Ouais, celui qui s'achemine au petit pas vers la porte de la ville ?
Oui, lui-même.
Allez, vous êtes fous ! Ce n'est point là l'allure d'un voleur.
C'en est un, vous dis-je. Il m'a pris de force une montre d'or. Je suis ruiné si vous ne me secourez. Elle vaut 30 louis comme un liars. Secourez-moi, il emporte ma montre. Et s'il vient à piquer des deux, ma montre est perdue.
Voilà donc une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants allant et criant « Au voleur, à l'assassin !» et le porte-balles les suivant d'aussi près que le fardeau dont il était chargé le lui permettait et criant « Au voleur, à l'assassin !» Ils sont entrés dans la ville, car c'est dans une ville que Jacques et son maître avaient séjourné la veille. Je me le rappelle à l'instant. Les habitants quittent leur maison, se joignent aux paysans et aux porte-balles et tous vont, criant à l'unisson, « Au voleur, à l'assassin !»«
Coquin, fripon, scélérat, rends-moi ma montre. Tu me la rendras et tu n'en seras pas moins pendu. »«
Il y a un magistrat de police ici, qu'on me mène chez lui. » Là, je ferai voir que je ne suis point un coquin et que cet homme en pourrait bien être un. Je lui ai pris une montre, il est vrai, mais cette montre est celle de mon maître. Je ne suis point inconnu dans cette ville. Avant-hier au soir, nous y arrivâmes, mon maître et moi, et nous avons séjourné chez monsieur le lieutenant général, son ancien ami.
Oui, oui, oui. Si je ne vous ai pas dit plus tôt que Jacques et son maître avaient passé par Conches et qu'ils avaient logé chez le lieutenant général, c'est que ça ne m'était pas venu plus tôt.
Qu'on me conduise chez monsieur le lieutenant général.
Hé, hey, c'est toi, mon pauvre Jacques. Qu'est-ce qui te ramène seul ici?
La montre de mon maître, monsieur le lieutenant général. Il l'avait laissée pendue au coin de la cheminée et je l'ai retrouvée dans la balle de cet homme. Et puis aussi notre bourse, que j'ai oubliée sous mon chevet et qui se retrouvera si vous l'ordonnez.
Et que cela soit écrit là-haut. Mes gens sont tous là?
Voilà celui qui m'a vendu la montre.
Mais... vous mériteriez tous deux les galères. Ah. Toi pour avoir vendu la montre.
Monsieur mon maître.
Toi pour l'avoir achetée.
Oh, bonsoir.
Toi, rends à cet homme son argent. Et mets-moi ton habit sur le champ. Et toi, dépêche-toi de vider le pays. Je ne veux pas y rester accroché pour toujours. Vous faites tous deux un métier qui porte malheur. Allez, Jacques, à présent, il s'agit de ta bourse.
C'est moi, monsieur, qui ai la bourse. Mais je ne l'ai point volée, c'est lui qui me l'a donnée.
Je vous ai donné ma bourse?
Oui.
Ah, cela se peut, mais le diable m'emporte si je m'en souviens.
Allons, Jacques, n'éclaircissons pas cela davantage.
Mais monsieur, je...
Elle est jolie et complaisante, à ce que je vois.
Mais monsieur, je vous jure que...
Combien y avait-il dans cette bourse?
Environ 917 livres.
Ah, je vote. 917 livres pour une nuit. C'est beaucoup trop pour vous et pour lui.
Oh.
Donnez-moi la bourse.
Monsieur.
Tenez. Voici un écu de 6 francs. Prix de vos services. Vous valez mieux... mais pour un autre que Jacques. Je vous en souhaite deux fois autant tous les jours. Mais en dehors de chez moi, entendez-vous? Et toi, Jacques? Dépêche-toi de remonter sur ton cheval et de retourner à ton maître.
Jacques salua le magistrat et s'éloigna sans répondre. Mais il se disait en lui-même...
L'effronté, la coquine. Il était donc écrit là-haut qu'un autre coucherait avec elle et que Jacques paierait. Allons, Jacques, console-toi. N'es-tu pas trop heureux d'avoir rattrapé ta bourse et la montre de ton maître et qu'il t'en ait si peu coûté?
Cependant, que faisait le maître de Jacques? Eh bien, il s'était assoupi au bord du grand chemin, la bride de son cheval passée dans son bras. Et l'animal paissait l'herbe autour du dormeur, autant que la longueur de la bride le lui permettait.
Eh bien, monsieur, et votre cheval?
Mon cheval?
Oui, et votre cheval?
On me l'a volé. C'est de ta faute, gredin. J'étais si longtemps à t'attendre que je me suis endormi.
Oh, tout doux, monsieur. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui à me laisser assommer. Je recevrai le premier coup, mais je jure qu'au second, je pique des deux et vous laisse là.
Et ma montre?
La voilà.
Ah, et ta bourse?
La voilà.
Tu as été bien longtemps.
Pas trop pour tout ce que j'ai fait. Écoutez bien. Je suis allé. Je me suis battu. J'ai ameuté tous les paysans de la campagne. J'ai ameuté tous les habitants de la ville. J'ai été pris pour voleur de grand chemin. J'ai été conduit chez le juge. J'ai subi deux interrogatoires. J'ai presque fait pendre deux hommes. J'ai fait mettre à la porte un valet. J'ai fait chasser une servante. J'ai été convaincu d'avoir couché avec une créature que je n'ai jamais vue et que j'ai pourtant payée. Et je suis revenu.
Et moi, en t'attendant?
Eh bien, en m'attendant, il était écrit là-haut que vous vous endormiriez et qu'on vous volerait votre cheval. Oh. Eh bien, monsieur, n'y pensons plus. C'est un cheval perdu et peut-être est-il écrit là-haut qu'il se retrouvera.
Mon cheval, mon pauvre cheval.
Et quand vous continueriez vos lamentations jusqu'à demain, il n'en sera ni plus ni moins.
Oh. Qu'allons-nous faire?
Je vais vous prendre en croupe ou, si vous l'aimez mieux, nous quitterons nos bottes, nous les attacherons sur la selle de mon cheval et nous poursuivrons notre route à pied.
Allons à pied. Oh, mon cheval, mon pauvre cheval. Que m'as-tu raconté tout à l'heure? Tu n'avais pas couché avec cette fille?
Non, monsieur.
Et tu l'as payée?
Assurément.
Je fus une fois en ma vie plus malheureux que toi.
Et vous payâtes après avoir couché.
Tu l'as dit.
Est-ce que vous ne me raconterez pas cela?
Avant que d'entrer dans l'histoire de mes amours, il faut être sorti de l'histoire d'Étienne. Eh bien, Jacques, étais à vous, que je prendrai pour les premières et les seules de ta vie, nonobstant l'aventure de la servante du lieutenant général de Conches.
car quand tu aurais couché avec elle, tu n'en aurais pas été amoureux pour cela. Tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas. Et l'on ne couche pas avec des femmes qu'on aime. Mais...
Eh bien, mais qu'est-ce ?
Mon cheval... Jacques, mon ami, ne te fâche pas. Mets-toi à la place de mon cheval. Suppose que je t'ai perdu. Et dis-moi si tu ne m'en estimerais pas davantage, si tu m'entendais m'écrier « Mon Jacques, mon pauvre Jacques !»
J'en étais, je crois, au discours de mon hôte avec sa femme pendant la nuit qui suivit mon premier pansement. À mon réveil, je vis mon hôte, sa femme et le chirurgien en conférence devant une bouteille de vin.
Sa jambe, une jambe à couper, mais elle durera autant que l'autre, c'est moi qui vous en réponds.
Il guérira.
Oh, j'en ai guéri bien d'autres.
Il marchera.
Il marchera.
S'emboîter.
Ça, c'est autre chose. Au demeurant, s'il boite, ce sera peu de chose. Alors, commère, encore un petit verre.
Mais, compère, cela sera-t-il long?
Très long, oui. À vous, compère.
Combien? Un mois?
Mettons-en deux, trois, que quatre. Qui c'est cela? La rotule est entamée, le fémur, le tibia. À vous, commère.
4 mois, miséricorde. Pourquoi la recevoir ici? Que diable faisait-elle à sa porte?
À moi, car j'ai bien travaillé.
Mais dis-moi, que faire de cet homme? Encore si l'année n'était pas si mauvaise.
Si tu voulais, j'irais chez le curé.
Si tu mets le pied, je te roue de coups.
Mais pourquoi donc, compère? La mienne y va bien.
C'est votre affaire.
À ma filleule. Comment se portait-elle?
Fort bien.
Allons, compère, à votre femme et à la mienne. Ce sont deux bonnes femmes.
Oh, la vôtre est plus avisée, n'aurait pas fait la sottise.
Mais, compère, il y a les sœurs grises.
Oh, commère. Un homme, je l'ai mal, c'est. Et puis, il y a une petite difficulté, un peu plus grande que le doigt. Buvons, sœur, ce sont de bonnes filles.
Et quelle difficulté?
Votre homme ne veut pas que vous alliez chez le curé, ma femme ne veut pas que j'aille chez les sœurs. Mais qu'on perd encore un coup, cela nous avisera peut-être. Avez-vous questionné cet homme? Il n'est peut-être pas sans ressources.
Un soldat?
Un soldat? À père, mère, frère, sœur, des parents, des amis, enfin, quelqu'un sous le ciel, quoi.
Telle fut, à la lettre, la conversation du chirurgien, de l'hôte et de l'hôtesse. Mais quelle autre couleur n'aurais-je pas été le maître de lui donner en introduisant un scélérat parmi ces bonnes gens? Jacques se serait vu, ou plutôt vous auriez vu Jacques, au moment d'être arraché de son lit, jeté sur un grand chemin, ou dans une fondrière.
Pourquoi pas tué?
Tué? Oh non, auditeur. J'aurais bien su appeler quelqu'un à son secours. Ce quelqu'un aurait été un soldat de sa compagnie, mais cela aurait pu et l'abbé Prévost a infecté. Non, la vérité, la vérité.
La vérité est souvent froide, commune et plate.
D'accord, mais s'il faut être vrai, c'est comme Molière, Regnard, Richardson, Sedaine. La vérité a ses côtés piquants, qu'on saisit quand on a du génie.
Oui, quand on a du génie, mais...
Quand on en manque, il ne faut pas écrire. Et si, par malheur, on ressemblait à un certain poète que j'envoyais à Pondichéry...
Qu'est-ce que ce poète?
Ce poète... Mais si vous m'interrompez, auditeur, et si je m'interromps moi-même à tout coup, que deviendront les amours de Jacques? Non, croyez-moi, laissons là le poète.
L'hôte et l'hôtesse s'éloignèrent.
Non, l'histoire du poète de Pondichéry.
Le chirurgien s'approcha de mon lit.
L'histoire du poète de Pondichéry, du poète de Pondichéry.
Bon, eh bien, un jour, il me vint un jeune poète, comme il m'en vient tous les jours... Et, enfin, auditeur, quel rapport cela a-t-il avec le voyage de Jacques le fataliste et de son maître?
L'histoire du poète de Pondichéry.
Eh bien, après les compliments ordinaires sur mon esprit, mon génie, mon goût, ma bienfaisance et autres propos dont je ne crois pas un mot, bien qu'il y ait plus de 20 ans qu'on me les répète, et peut-être de bonne foi, le jeune poète tire un papier de sa poche.
Ce sont des vers.
Des vers?
Oui, monsieur. et sur lesquels j'espère que vous aurez la bonté de me dire votre avis.
Mmh. Aimez-vous la vérité?
Oui, monsieur. Et je vous la demande.
Vous allez la savoir.
Quoi? Vous êtes assez bête pour croire qu'un poète vient chercher la vérité chez vous?
Oui.
Et pour la lui dire?
Assurément.
Sans ménagement?
Sans doute. Le ménagement le mieux apprêté ne serait qu'une offense grossière. Fidèlement interprété, il signifierait « Vous êtes un mauvais poète ». Et comme je ne vous crois pas assez robuste pour entendre la vérité, vous n'êtes encore qu'un plat homme.
Et la franchise vous a toujours réussi?
Enfin, presque toujours. Je lis donc les vers de mon jeune poète et je lui dis « Non seulement vos vers sont mauvais, mais il m'est démontré que vous n'en ferez jamais de bons. »
Il faudra donc que j'en fasse de mauvais, car je ne saurais m'empêcher d'en faire.
Oh, voilà une terrible malédiction. Enfin, concevez-vous, monsieur, dans quel avilissement vous allez tomber? Mais ni les dieux, ni les hommes, ni les colonnes n'ont pardonné la médiocrité au poète. C'est Horace qui l'a dit.
Je le sais.
Mais, êtes-vous riche?
Non.
Êtes-vous pauvre?
Très pauvre.
Et vous allez joindre à la pauvreté le ridicule de mauvais poète? Vous aurez perdu toute votre vie, vous serez vieux, enfin, vieux, pauvre et mauvais poète. Oh, monsieur, quel rôle!
Je le conçois, mais je suis entraîné malgré moi.
Ici, Jacques aurait dit, mais cela est écrit là-haut.
Avez-vous des parents?
J'en ai.
Quel est leur état?
Ils sont joailliers.
Feraient-ils quelque chose pour vous?
Peut-être.
Eh bien, alors voyez vos parents. Proposez-leur de vous avancer une pacotille de bijoux et embarquez-vous pour Pondichéry. Vous ferez de mauvais vers sur la route, mais arrivé, vous ferez fortune. Votre fortune faite, vous reviendrez ici faire tant de mauvais vers qu'il vous plaira, pourvu que vous ne les fassiez pas imprimer, car il ne faut ruiner personne. Il y avait environ 12 ans que j'avais donné ce conseil au jeune homme, lorsqu'il m'a paru.
C'est moi, monsieur, que vous avez envoyé à Pondichéry. J'y ai été. J'ai amassé là 100 000 francs. Je suis revenu. Je me suis remis à faire des vers et en voilà que je vous apporte. Ils sont toujours mauvais?
Toujours. Mais votre sort est arrangé et je consens que vous continuiez à faire de mauvais vers.
C'est bien mon projet.
Le chirurgien s'étant approché du lit de Jacques...
J'ai tout entendu. C'est alors...
Un instant, Jacques. Je suis là de marcher. Vois-tu cet homme qui vient à nous?
Je le vois.
Son cheval me paraît bon.
J'ai servi dans l'infanterie et je ne m'y connais pas.
Moi, j'ai commandé dans la cavalerie et je m'y connais.
Et après?
Après. Je voudrais que tu allasses proposer à cet homme de nous le céder en payant comptant, 100 ans.
Combien y voulez-vous mettre?
Jusqu'à 100 écus.
Les voilà tous les deux à cheval.
Lorsque je quittais la maison, mon père, ma mère, mon parrain m'avaient tous donné quelque chose, chacun selon ses petits moyens. Et j'avais en réserve 5 louis, dont Jean, mon aîné, m'avait fait présent lorsqu'il partit pour son malheureux voyage de Lisbonne. Je retrouvais ce magot bien à point. Qu'en dites-vous, mon maître?
Mais qu'est-ce que ton frère Jean était allé chercher à Lisbonne? Ne pleure pas, Jacques. Cela était écrit là-haut.
Oh, il est vrai, monsieur, je me le suis dit 100 fois. Et avec tout cela, je ne saurais m'empêcher de pleurer.
Mais qu'allait-il donc faire à Lisbonne?
Chercher, monsieur, un tremblement de terre qui ne pouvait se faire sans lui, être écrasé, englouti, brûlé, comme il était écrit là-haut.
Revenons à tes amours, Jacques.
Oh non, monsieur, n'y revenons pas.
Est-ce que tu ne veux plus que je les sache?
Je le veux toujours, mais le destin, lui, ne le veut pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aussitôt que j'en ouvre la bouche, le diable s'en mêle et qu'il survient toujours quelque incident qui me coupe la parole? Je ne les finirai pas, vous dis-je. Cela est écrit là-haut.
Essaye, mon ami.
Mais si vous commenciez l'histoire des vôtres, peut-être que cela romprait le sortilège et qu'ensuite les miennes en iraient mieux.
Dis-moi, Jacques... Ne vois-tu pas quelque chose sur ta gauche?
Oui, et je gage que c'est quelque chose qui ne voudra pas que je continue mon histoire, ni que vous commenciez la vôtre.
Bientôt, ils aperçurent un char drapé de noir.
Traîné par 4 chevaux noirs.
Couvert de housses noires.
Derrière 2 domestiques en noir.
À la suite, 2 autres vêtus de noir.
Chacun sur un cheval noir.
Caparaçonné de noir.
Et sur le siège, un cocher noir.
Mais...
Le chapeau rabattu et entouré d'un long crêpe.
Oh, oh mon pauvre capitaine! C'est lui, je n'en saurais douter, voilà ses armes.
Et à côté du cercueil, un prêtre. Un bréviaire à la main.
Mon capitaine. Mon pauvre capitaine.
Hélas, monsieur. Ce convoi est bien celui de votre capitaine. Décédé dans la ville voisine, nous nous transportons à la sépulture de ses ancêtres.
Mais de quoi est-il donc mort, mon père?
Depuis que ce militaire a été privé... Par la mort d'un autre militaire, son ami, capitaine au même régiment, de la satisfaction de se battre au moins une fois par semaine, il en est tombé dans une mélancolie qu'il a éteint au bout de quelques mois.
Oh, mon capitaine, mon pauvre capitaine.
Jacques, après avoir payé à son capitaine le tribut d'éloges, de regrets et de larmes qu'il lui devait, fit excuse à son maître, remonta sur son cheval, et ils allaient, en silence.
Mais pour Dieu, l'auteur, où allait-il?
Mais pour Dieu, l'auditeur, est-ce qu'on sait où l'on va? Mais vous, où allez-vous? Faut-il que je vous rappelle l'aventure d'Ésope? Son maître, Xantippe, lui dit un soir d'été ou d'hiver, car les Grecs se baignaient dans toutes les saisons.
Ésope, va au bain. S'il y a peu de monde, nous nous baignerons.
Ésope part. Chemin faisant, il rencontre la patrouille d'Athènes.
Et où vas-tu, Ésope?
Où je vais? Je n'en sais rien.
Ah, tu n'en sais rien? Marche en prison.
Eh bien, ne l'avais-je pas bien dit que je ne savais pas où j'allais? Je voulais aller au bain et voilà que je vais en prison.
Jacques suivait son maître comme vous le vôtre. Son maître suivait le sien. Comme Jacques le suivait.
Mais qui était le maître du maître de Jacques?
Bon, est-ce qu'on manque de maîtres en ce monde? Le maître de Jacques en avait 100 pour un, comme vous. Mais parmi tant de maîtres du maître de Jacques, il fallait qu'il n'y en eût pas un bon, car d'un jour à l'autre, il en changeait.
Il était homme.
Homme passionné comme vous, auditeur. Homme curieux comme vous, auditeur. Homme importun comme vous, auditeur. Homme questionneur comme vous, auditeur.
Et pourquoi questionnait-il?
Belle question. Il questionnait pour apprendre et pour redire, comme vous, auditeur.
Tu ne me parais pas disposé à reprendre l'histoire de tes amours.
Mon pauvre capitaine... Il s'en va où nous allons tous, et où il est bien extraordinaire qu'il ne soit pas arrivé plus tôt.
Mais Jacques, vous pleurez, je crois.
Docteur, demeurez-vous loin d'ici?
À un bon quart de lieue, au moins.
Êtes-vous un peu commodément logé?
Assez commodément.
Pourriez-vous disposer d'un lit?
Et non.
Quoi, pas même en payant? En payant bien.
Oh, en payant et en payant bien, pardonnez-moi. Mais, l'ami, vous ne me paraissez guère en état de payer. Et moins encore de bien payer.
C'est mon affaire. Et serais-je un peu soigné par vous?
Très bien. J'ai ma femme qui a gardé des malades toute sa vie. J'ai une fille aînée qui fait le poil à tout venant et qui vous lève un appareil aussi bien que moi.
Combien me prendriez-vous pour mon logement? Ma nourriture et vos soins.
Pour le logement, la nourriture, les soins, je... Mais qui est-ce qui me répondra du paiement?
Je paierai tous les jours.
Voilà ce qui s'appelle parler, cela.
Et monsieur, je crois que vous ne m'écoutez pas.
Non, Jacques. Il était écrit là-haut que tu parlerais, cette fois, qui ne sera peut-être pas la dernière, sans être écouté.
Et quand on n'écoute pas celui qui parle, c'est qu'on ne pense à rien ou qu'on pense à autre chose que ce qu'il dit. Lequel des deux faisiez-vous ?
Le dernier. Je rêvais à ce que le prêtre qui suivait le char funèbre te disait que ton capitaine avait été privé par la mort de son ami du plaisir de se battre au moins une fois la semaine. As-tu compris quelque chose à cela ?
Assurément.
C'est pour moi une énigme que tu m'obligerais de m'expliquer.
Mais jurez-moi du moins que vous ne m'interromprez plus.
À tout hasard, je le jure.
C'est que mon capitaine, bon homme, galant homme, homme de mérite, un des meilleurs officiers du corps, mais homme un peu hétéroclite, avait rencontré et fait amitié avec un autre officier du même corps, bonhomme aussi, galant homme de mérite aussi, aussi bon officier que lui, mais homme aussi hétéroclite que lui.
Qu'entends-je, Jacques, et que vois-je ? Le char de ton capitaine, qui revient sur ses pas, entouré d'une troupe nombreuse d'hommes et de chevaux.
Des gardes de la ferme ?
Non.
Des cavaliers de la maréchaussée ?
Oui, peut-être.
Quoi qu'il en soit, ce cortège est précédé du prêtre en soutane et en surplis, les mains liées derrière le dos. Du cocher noir, les mains liées derrière le dos. Et des deux valets noirs, les mains liées derrière le dos.
Mon capitaine, mon pauvre capitaine n'est pas mort, Dieu soit loué.
Tu verras que ce sont des contrebandiers qui auront rempli cette bière de marchandises prohibées et qu'ils auront été vendus à la ferme par les coquins mêmes de qui ils les avaient achetés.
Mais pourquoi ce carrosse aux armes de mon capitaine ?
Ou c'est un enlèvement. On aura caché dans ce cercueil que c'est une femme, une fille, une religieuse. Ce n'est pas le linceul qui fait le mort.
Mais pourquoi ce carrosse aux armes de mon capitaine ?
Ce sera tout ce qu'il te plaira. Mais achève-moi l'histoire de ton capitaine.
Quand j'entrais au régiment, il y avait deux officiers à peu près égaux d'âge, de naissance, de service et de mérite. Mon capitaine était l'un des deux. La seule différence qu'il y eut entre eux, c'est que l'un était riche et que l'autre ne l'était pas. Mon capitaine était le riche. Cette conformité devait produire ou la sympathie ou l'antipathie la plus forte. Elle produisit l'une et l'autre. Il y avait des jours où ils étaient les meilleurs amis du monde et d'autres où ils étaient ennemis mortels. Les jours d'amitié, ils se cherchaient, ils se fêtaient, ils s'embrassaient, ils se communiquaient leurs peines, leurs plaisirs, leurs besoins. Ils se consultaient sur leurs affaires les plus secrètes, sur leurs intérêts domestiques, sur leurs espérances, sur leurs craintes, sur leurs projets d'avancement. Le lendemain, se rencontraient-ils ? Ils passaient l'un à côté de l'autre sans se regarder. Où ils se regardaient fièrement. Ils s'appelaient monsieur. Ils s'adressaient des mots durs. Ils mettaient l'épée à la main et se battaient. S'il arrivait que l'un des deux fût blessé, l'autre se précipitait sur son camarade, pleurait, se désespérait, l'accompagnait chez lui et s'établissait à côté de son lit jusqu'à ce qu'il fût guéri. 8 jours, 15 jours, 1 mois après, c'était à recommencer. Et l'on voyait d'un instant à l'autre deux braves gens. Oh là ! Deux braves gens, deux amis sincères, exposés à périr par la main l'un de l'autre, et le mort n'aurait certainement pas été le plus à plaindre des deux. Ni mes remontrances, ni celles des autres n'y faisaient rien. On n'y trouva de remède qu'à les séparer. Le ministre de la guerre fut instruit d'une persévérance si singulière dans des extrémités si opposées, et mon capitaine nommé à un commandement de place, avec injonction expresse de se rendre sur le champ à son poste et défense de s'en éloigner. Une autre défense fixa son camarade au régiment. Je crois que ce maudit cheval me fera devenir fou. À peine les ordres du ministre furent-ils arrivés, que mon capitaine, sous prétexte d'aller remercier de la faveur qu'il venait d'obtenir, partit pour la cour. Représenta qu'il était riche et que son camarade indigent avait le même droit aux grâces du roi, que le poste qu'on venait de lui accorder récompenserait les services de son ami, suppléerait à son peu de fortune et qu'il en serait, lui, comblé de joie. Comme le ministre n'avait eu d'autre intention que de séparer ces deux hommes bizarres et que les procédés généreux touchent toujours, il fut arrêté. Mais maudite bête, te tairas-tu ? Il fut arrêté que mon capitaine resterait au régiment et que son camarade irait occuper le commandement de place. À peine furent-ils séparés qu'ils sentirent le besoin qu'ils avaient l'un de l'autre. Ils tombèrent dans une mélancolie profonde. Mon capitaine demanda un congé de semestre pour aller prendre l'air natal. Mais, à deux lieues de la garnison, il vend son cheval, se déguise en paysan et s'achemine vers la place que son ami commandait. Il paraît que c'était une démarche concertée. Il arrive. Riez bien, monsieur, cela est fort plaisant, en effet. Il arrive. Mais il était écrit là-haut que quelques précautions qu'ils prissent pour cacher la satisfaction qu'ils avaient de se revoir et ne s'aborder qu'avec les marques extérieures de la subordination d'un paysan à un commandant de place, des soldats prendraient des soupçons et iraient prévenir le major de la place. Celui-ci mit des espions autour du commandant. Il était impossible que ces deux hommes vécussent ensemble 8 jours de suite, sans que leur étrange manie les reprît, ce qui ne manqua pas d'arriver. Un jour, les espions rapportèrent au major qu'il y avait eu une contestation fort vive entre le commandant et le paysan. Qu'ensuite ils étaient sortis, le paysan marchant le premier, le commandant ne le suivant qu'à regret, et qu'ils étaient entrés chez un banquier de la ville. On apprit dans la suite que, n'espérant plus de se revoir, ils avaient résolu de se battre à toute outrance, et que, sensibles au devoir de la plus tendre amitié, au moment même de la férocité la plus inouïe, mon capitaine, qui était riche, comme je vous l'ai dit. Silence ! Mon capitaine, qui était riche, avait exigé de son camarade qu'il acceptât une lettre de change de 24 000 livres qui lui assura de quoi vivre chez l'étranger au cas qu'il fût tué. Celui-ci protestant qu'il ne se battrait pas sans ce préalable, l'autre répondant à cette offre : Est-ce que tu crois, mon ami, que si je te tue, je te survivrai ? J'espère, monsieur, que vous ne me condamnerez pas à finir notre voyage sur ce bizarre animal. Ils sortaient de chez le banquier lorsqu'ils se virent entourés du major et de quelques officiers. Quoique cette rencontre eût l'air d'un incident fortuit, nos deux ennemis, ne s'y méprirent pas. Le paysan se laissa reconnaître pour ce qu'il était. On alla passer la nuit dans une maison écartée. Le lendemain, dès la pointe du jour, mon capitaine, après avoir embrassé plusieurs fois son camarade, s'en sépara pour ne plus le revoir. À peine fut-il arrivé dans son pays qu'il mourut.
Et qui est-ce qui t'a dit qu'il était mort ?
Et ce cercueil, et ce carrosse à ses armes. Mon pauvre capitaine est mort, je n'en doute pas.
Et ce prêtre, les mains liées sur le dos ? Et ces gens, les mains liées sur le dos, et ces gardes de la ferme, ou ces cavaliers de maréchaussée, ils se retournent du convoi vers la ville. Ton capitaine est vivant, je n'en doute pas.
Cette histoire du capitaine de Jacques est un conte.
Soyez circonspect, auditeur. Si vous ne voulez pas prendre dans cet entretien de Jacques et de son maître le vrai pour le faux pour le vrai, vous voilà bien averti. Et moi, je m'en lave les mains.
Voilà deux hommes bien extraordinaires, l'auteur.
Et c'est ce qui vous met en défiance ? Non, premièrement, la nature est si variée, surtout dans les instincts et les caractères, qu'il n'y a rien de si bizarre dans l'imagination d'un poète dont l'expérience et l'observation ne vous offrissent le modèle dans la nature. Moi qui vous parle. Eh bien, j'ai rencontré le pendant du médecin malgré lui, que j'avais regardé jusque-là comme la plus folle et la plus gaie des fictions.
Quoi ? Le pendant du mari à qui sa femme dit « J'ai 3 enfants sur les bras » et qui lui répond « Mets-les à terre ? Ils me demandent du pain, donne-leur le fouet. »
Précisément. Et voici son entretien avec ma femme.
Vous voilà, monsieur Goose ?
Non, madame, je ne suis pas un autre.
D'où venez-vous ?
D'où j'étais allé.
Qu'avez-vous fait là ?
J'ai raccommodé un moulin qui allait mal.
À qui appartenait ce moulin ?
Je n'en sais rien. Je n'étais pas allé pour raccommoder le meunier.
Vous êtes fort bien vêtu pour votre usage. Pourquoi, sous cet habit qui est très propre, une chemise sale ?
C'est que je n'en ai qu'une.
Pourquoi n'en avez-vous qu'une ?
c'est que je n'ai qu'un corps à la fois.
Mon mari n'y est pas, mais cela ne vous empêchera pas de dîner ici.
Ah non, puisque je ne lui ai confié ni mon estomac, ni mon appétit.
Oh, comment se porte votre femme?
Comme il lui plaît, c'est son affaire.
Et vos enfants?
À merveille.
Celui qui a de si beaux yeux, un si bel embonpoint, une si belle peau.
Beaucoup mieux que les autres. Il est mort.
Oh, leur apprenez-vous quelque chose?
Non, madame.
Quoi? Ni à lire, ni à écrire, ni le catéchisme?
Ni à lire, ni à écrire, ni le catéchisme.
Ah, mais pourquoi cela?
C'est qu'on ne m'a rien appris et que je n'en suis pas plus ignorant. S'ils ont de l'esprit, ils feront comme moi. S'ils sont sots, ce que je leur apprendrai ne les rendrai que plus sots.
C'est une théorie que vous avez reprise du neveu de Rameau.
Dis-moi, Jacques, ne pourrais-tu pas...
Reprendre l'histoire de mes amours? Volontiers. Mais demain, à la même heure, si vous le voulez bien.
C'était Jacques le Fataliste et son maître, de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. Jean-Roger Cossimon, son maître. Et Régine Blaes, de la Comédie Française, Roger Brett, René Clermont, Roger Carl, Judith Magre, Jacques Morel, Maurice Nazil, Jean Péméja, Jacqueline Rivière. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage, Robert Moufra. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistant de production, Pierre Cazaret. Réalisation, Henri Soubéran.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, ex France 3 National, bientôt France Culture, le 12 novembre 1963. À suivre et d'ici là à réécouter en ligne ou à télécharger, ainsi que le premier épisode, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.